diversité des cas, l'analyse qui a été faite par Nadine nous présente au moins trois cas. Elle aurait pu également développer cette approche. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Mais on a évoqué ici donc expropriation, accaparement. On a évoqué également le colonialisme. J'aimerais vous entretenir de ce qui s'est passé en Amérique espagnole au cours du XVIe siècle, mais en revenant à ce qui s'est d'abord passé en Espagne. L'arrivée des Européens en Amérique à la fin du XVe siècle a entraîné plusieurs révolutions. La révolution des prix en Espagne et en Europe est bien connue des spécialistes. Elle est provoquée par l'arrivée massive des métaux précieux, des Antilles, du Mexique et surtout du Potosí au Pérou. On a également évoqué la révolution politique qu'une telle découverte a favorisée, en particulier lorsque les Habsbourg ont dû adapter l'État espagnol qu'ils venaient tout juste de conquérir aux besoins de contrôle d'un empire devenu mondial. Mais il y a une autre révolution dont on a moins parlé, sans doute parce qu'elle était moins visible. Une révolution qui a eu trois dimensions consécutives. Une révolution qui a d'abord été intellectuelle, puis juridique et législative, et finalement pratique. Elle concerne, pour le dire en peu de mots, la théorie et l'application concrète de l'exercice colonial par une puissance européenne, la monarchie espagnole, la plus importante du XVIe et d'une bonne partie du XVIIe siècle. La révolution intellectuelle a eu lieu à Salamanque, au sein des facultés de biologie et de droit des universités espagnoles. Elle a été conduite par les docteurs scolastiques castillans du XVIe siècle, des dominicains, des augustins, puis des jésuites, sous la conduite de Francisco de Vitoria et de Domingo de Soto. Confrontée aux faits américains et à l'urgence de la compréhension, l'école de Salamanque a dû adapter et rajeunir la conception du monde et des institutions qu'elle avait héritées d'Aristote, de Saint-Augustin et de Saint-Thomas. Motivée surtout par la morale et par la religion, mais tout en faisant du manuel du confesseur un manuel d'économie politique, selon la formule de Pierre Villard, l'école de Salamanque a renouvelé les notions de la possession, le dominium de la personne individuelle et collective sur les choses de la terre et sur les êtres inférieurs, les notions de l'échange, des prix, des impôts, mais aussi celle des relations internationales et du droit de s'emparer des territoires et des peuples étrangers. Alors que les conquistadors et les colons parcouraient, pillaient et occupaient l'immense continent américain, tout en renversant des royaumes et des empires, Charles Quint, puis Philippe II, incorporaient peu à peu dans la législation destinée au monde aux Américains les nouvelles notions forgées par les docteurs de Salamanque. C'était la révolution juridique et législative. Une telle législation qui a pu se parer des habits de la protection des indigènes du Nouveau Monde était clairement marquée du sceau de l'appropriation des espaces. Elle appelait à l'occupation totale du territoire, à l'exercice du dominium sur l'ensemble du vivant dans le continent américain, à l'expansion de la langue castillane, de la religion qu'elle comportait et à l'appropriation par le nom de toute la nature. Même si les Indiens américains étaient considérés comme des êtres humains rationnels, leur seigneur suprême et éminent, par la grâce des dieux et du pontife de Rome, était désormais le souverain d'Espagne. Même si ces Indiens pouvaient eux aussi avoir le dominion sur leurs choses, la tutelle que l'Espagne avait décidé d'exercer sur eux lui donnait le droit d'utiliser leurs biens pour une telle fonction. Une faculté dont les Espagnols ont pu largement profiter sur place. On est ici au point de départ du droit tutélaire exercé intégralement par le colonisateur sur le colonisé. C'était la révolution pratique. Un tel renouvellement de la théorie et de la pratique du fait colonial, pionnier dans la période moderne, a d'abord justifié la conquête amorcée dès la fin du XVe siècle et a ensuite ouvert la voie à la pratique d'un immense et durable accaparement des terres et des espaces du vivant du continent américain. y compris après le départ des Espagnols au début du XIXe siècle, comme des vagues qui ont déferlé au rythme des besoins du capitalisme mondialisé. Voilà, je me suis donné la parole moi-même pour présenter cette révolution qui s'est produite dans les relations entre l'Espagne et les mondes américains, mais nous avons essayé également de montrer que ce processus d'accaparement des terres pouvait remonter encore plus loin dans le temps. Et pour cela, nous avons demandé à Jean-Michel Carrier de nous apporter son expérience, ses connaissances.